France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 25 juillet 2000, un Concorde s'écrasait quelques instants après son décollage de Roissy-Charles de Gaulle sur la commune de Gonesse. On sait que ce premier accident de l'avion supersonique marqua sa toute fin commerciale. 3 ans plus tôt, l'émission Lieux de mémoire s'intéressait à ce qui fut vécu comme une perfection, le Concorde.
Lieu de mémoire, Concorde, l'avion qui va plus vite que le soleil, Marie-Ange Garandeau, Marie-Paul Vette.
Je pense que Matisse aurait pu le dessiner d'un trait. C'est un trait, le Concorde. C'est une perfection. Et pourtant, moins confortable que ne le sont les premières classes d'un Boeing 747. Mais quand on est dans l'avion, on participe. Et puis alors, l'aiguille vous indiquant qu'on va passer le mur du son, c'est quand même quelque chose. Vous vous rendez compte, dans ce siècle, on est parti d'un vol de 25 mètres au parc de Bagatelle pour finir à Mach 2,2. Et on se demande, et puis cette espèce de bleu qu'il y a à la hauteur où il vole, c'est... On en mangerait tous les jours.
Concorde, voici un sublime oiseau qui prit son envol il y a maintenant 28 ans dans le ciel toulousain et qui continue à servir les rêves les plus fous. Après avoir fait frissonner la France entière par ses performances inégalées, un combat engagé par-delà l'Atlantique entre les États-Unis et la France eut raison de son avenir commercial. Si le premier avion civil supersonique put enfin se poser à New York pour desservir une liaison quotidienne, il ne sera fabriqué qu'en 16 exemplaires. Toutes les options d'achat étant caduques. Né en France, dans une période particulièrement faste où le gouvernement de Georges Pompidou doit maintenir la croissance, cette formidable aventure aérienne tournera court. Sauf que 28 ans après, Concorde est encore inégalé et ne croise qu'un autre Concorde à 20 km d'altitude et à 2300 km/h. Le projet américain SST et le projet russe Tupolev sont restés, eux, sans suite. La force, la beauté de Concorde, c'est d'avoir permis à un grand nombre de passagers de porter l'idée de l'envol, puis du vol, dans des territoires encore inexplorés par tous les avions civils. Jacques Martin.
Pour l'aviation, c'est formidable. C'est la salle d'attente. On est entre ciel et terre, on ne peut pas dire autrement, n'est-ce pas ? Si on place le ciel là-haut. Et c'est un instant exceptionnel où on est en apesanteur, artificielle bien sûr, en équilibre parfait avec soi-même, même si des fois on a peur. Et puis, vous savez, nous avons été élevés avec Saint-Exupéry sous le bras gauche, et les autres volumes dans les poches, et Courrier Sud, et tout ça, ça... Et puis ces chevaliers, c'est la dernière histoire de la chevalerie dans cet univers. Parce que si on part des premiers pilotes, si on part de l'histoire de l'aéropostale, dont j'ai acheté l'aventure où il y avait marqué Société des avions latécoères, ça c'est une grande époque. C'est l'époque de Mermoz, de Guillaumet, c'est l'époque de la postale. avec un patron fantastique. Et c'est vraiment des chevauchées quand on lit ça. C'est la chevauchée.
Toulouse, grande première aéronautique, Jean Escherich, devant de nombreuses personnalités, deux ministres, M. Chaman pour la France, M. Wegwood pour la Grande-Bretagne, devant la presse internationale, Concorde, le premier avion supersonique de transport, a fait son apparition que nous avons pu suivre avec vous et Michel Forgit en direct sur France Inter, nous avons suivi également la télévision. 5 années ont donc été nécessaires pour permettre aux industries aéronautiques françaises et britanniques de réaliser cette grande opération et réussir sans doute ce grand pari. L'heure de la vérité a commencé pour le transport aérien supersonique. Vous étiez donc à Toulouse avec Michel Forgit. Quelle impression vous reste-t-il de ce premier contact avec Concorde ?
Eh bien, je dois dire que, tout d'abord, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Concorde n'est pas un avion imposant, bien sûr. Il mesure 56 mètres de long et pèse 160 tonnes, mais il est tout en finesse. Le prototype 001 que nous avons vu était peint en blanc. Une bande rouge barrait le fuselage et une bande bleue la dérive de l'appareil. On ne s'en rend vraiment compte de son importance qu'en se plaçant dessous, c'est-à-dire évidemment sous les ailes en delta de l'avion.
Il serait bon, je pense, que vous nous rappeliez les performances attendues de Concorde.
Eh bien, c'est un avion supersonique à Mach 2,2, c'est-à-dire qu'il volera à 2355 km à l'heure. Pour donner une appréciation plus concrète de ses performances, disons qu'il fera la liaison Paris-New York en 200 minutes. Pour juger de la complexité de l'appareil, je vous dirais que sur Concorde, le câblage électrique atteint 250 km de longueur, que les 4 réacteurs Olympus, Snecma, Bristol, Sidley, avec 60 tonnes de poussée au décollage, ont la puissance de 5500 voitures de tourisme. Chaque fuseau moteur de Concorde a la longueur d'un autocar.
D'où vient ce nom, Concorde, Édouard Chemel ?
Eh bien, vous savez que chaque fois qu'on fait on établit un projet, on lui donne un nom. Et pour Concorde, ça a été très difficile parce que entre la France et l'Angleterre, on n'arrivait pas à trouver de nom. Donc c'était une fois ci, une fois ça. Et ça s'est passé dans une famille. Un garçon de 12 ans a dit à son père, parce qu'il n'était pas excédé, mais enfin il lui a dit, mais pourquoi vous n'appelez pas ça Concorde? Et en fait, effectivement, ce mot a été accepté.
Pour illustrer d'ailleurs cette coopération, je pense que vous pourriez répéter ce que déclarait cet après-midi à Toulouse le ministre de la Technologie, M. Wedwood, et il le faisait d'ailleurs avec beaucoup d'humour.
Oui, voici ce qu'il a dit. Nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord avec les Français sur la façon correcte d'écrire le mot Concorde, avec ou sans E à la fin. La lettre E représente bien des choses. Elle signifie excellence, England, Europe et entente. J'ai donc décidé que Concorde s'écrirait désormais avec un E.
Toulouse, le 2 mars 1969. André Turcat et Henri Perrier reçoivent les dernières informations avant de prendre place à bord. Michel Rétif, le mécanicien navigant, termine la visite pré-vol et participe à la préparation du poste avec les pilotes. Puis la checklist avant la mise en route est partagée entre le chef des essais en vol et Jacques Guignard, le second pilote. L'équipage est prêt pour le premier vol du 001.
Vous entendez peut-être maintenant les réacteurs de Concorde. Concorde qui est sur le point de partir, le nez toujours baissé. Je vous ai dit tout à l'heure que jamais Concorde ne relèverait son nez, ou plutôt jamais le pilote André Turcat ne relèverait le nez de Concorde, afin que Concorde n'aille pas trop vite. Il n'a pas le droit de dépasser pour ce premier essai la vitesse de 500 km à l'heure. Concorde est toujours en bout de piste. Vous entendez ces réacteurs. Je crois que maintenant, c'est une question de minutes. Voilà, Concorde a bougé. Concorde s'élance sur la piste. Vous entendez ces réacteurs qui donnent maintenant toute leur puissance. Et je vais passer l'antenne à Roger Surjus pour le décollage en direct.
Nous ne voyons pas encore Concorde arriver devant nos yeux, que Concorde va vraiment s'élever. Le voici d'ailleurs, il est maintenant à 150 nœuds, il est parti. Il est parti, Concorde.
Il est 15h, 40 minutes, 11 secondes. André Turcat lâche les freins et Concorde, toutes réchauffes allumées, prend son envol. L'appareil garde son train sorti afin de simplifier au maximum son premier contact avec le ciel. L'homme qui connaît le mieux Concorde, Henri Perrier, ingénieur navigant d'essai, surveille les paramètres de vol dans sa cabine bourrée d'enregistreurs et d'ordinateurs. Suivi à la télévision par les yeux du monde entier, Concorde est en approche et se pose, accompagné par le météore du centre d'essai en vol, qui vérifie sa vitesse.
Donc après 28 minutes de vol, frais et dispo, André Turcat descendait de Concorde 001.
Vous voyez que la machine vole, et je peux ajouter qu'elle vole bien. Pour nous, ce premier vol n'est pas un achèvement, un accomplissement, c'est au contraire le départ de notre nouveau travail, et nous avons devant nous... des mois et des années pour cette mise au point avant de vous le livrer et avant qu'on puisse annoncer que les passagers sont conviés à prendre place à bord.
It's April the 9th, 1969, and Concorde 002 is ready for her maiden flight from BAC's airfield at Filton. As in Concorde 001, no passenger seats, but 12 tons of flight test equipment. Today, the six-man crew was led by Brian Trubshaw, Director and General Manager, Flight Operations, BAC Filton, together with his co-pilot, John Cochrane. Of thousands of people concerned with the production of 002, few have awaited this moment more eagerly than those whose job it is to finally prove the aircraft.
Cette machine représente la plus grande aventure humaine du XXe siècle, parce que pour la première fois, à l'échelle d'un continent, les gens ont échangé leurs informations alors qu'ils n'avaient ni la même langue, ni les mêmes unités de mesure. C'est incroyable, mais c'est un truc qui a marché et qui les a rapprochés, qui a mieux fait connaître. J'ai rencontré beaucoup de gens en Angleterre qui ont reçu dans leur famille des petits Toulousains et inversement, et tous ces gens qui trouvaient drôle qu'à Toulouse, on puisse à la cantine boire du vin rouge alors qu'ils n'avaient pas dépassé la tasse de thé à Bristol. Et donc, cet avion est né de ce mariage franco-anglais que beaucoup ont dit contre nature, mais qui a très bien fonctionné. Et leur rêve pour la naissance d'un avion, c'est qu'un jour... Il y a un Anglais qui est venu à Paris, Bill Strong, qui était le chef du bureau d'études anglais, et Cervanti. Ils se sont installés dans le bureau d'aérospatial à Suresnes. C'était au début de l'année 1963. Et dans ce bureau, Bill Strong dit, quand nous arrivions à nous voir, parce que Cervanti était un chain smoker, il fumait les cigarettes les unes derrière les autres, et il fumait des gitanes en plus. Pour un Anglais qui ne fumait pas, c'était terrible. Et ils ont travaillé toute la journée. Et le soir, et le dessin a été élaboré. Vous pouvez mettre Concorde dessus, il n'y a pas une once de différence. C'est très beau. C'est cette espèce de patte magique où l'homme dessine, voit immédiatement, et la chance de trouver à la fois l'épure, le dessin et le futur d'une machine exceptionnelle.
Le 1er octobre 1969, Concorde 001, piloté par Jean Pinet, franchissait le mur du son au-dessus du golfe de Gascogne.
To these men, flying at twice the speed of sound is part of the daily routine. Mach 2, about 1350 miles an hour, or slightly faster than the muzzle velocity of a 303 rifle bullet.
André Turcat m'a dit un jour une chose absolument incroyable. Il était pilote d'essai, il avait travaillé, il a vu naître l'avion pratiquement, il était dans les hangars chaque jour. Et puis il y a eu une cérémonie que l'on appelle le roll-out, c'est-à-dire le premier roulage de l'avion, qui est une cérémonie officielle très importante à Toulouse, le 11 décembre.
Quelle année ?
11 décembre 1967, c'est-à-dire pratiquement une bonne année avant le premier vol. Et donc, ce jour-là, Turca m'a dit que je connaissais l'avion, bien sûr. Il était assis au premier rang avec un autre pilote d'essai britannique, Tropshaw. Il a dit, au moment où l'avion est arrivé, j'ai eu un moment d'émotion, j'avais de la peine à... Et j'ai retrouvé cette image. J'ai retrouvé cette image dans le film que j'ai réalisé avec lui. Effectivement, on voit son émotion. Et en fait, c'est tout à fait normal, parce que même pour nous, au moment où on arrive, que ce soit de jour ou de nuit, on est frappé par cet avion. D'abord parce que il était lancé, il n'en finit plus d'être long, il n'en finit pas d'être étroit à l'intérieur du cockpit. C'est quand vous voyez Alain Prost s'installer dans le cockpit, pour nous c'est pareil, on est trois dans un emplacement extrêmement réduit, et donc c'est beau, c'est un endroit particulier, c'est une niche céleste, vraiment d'une grande qualité. C'est pour ça que cet avion, et pour tous les gens qui travaillent, c'est-à-dire que les équipes qui ont travaillé sur Concorde, que ce soit le personnel navigant technique, c'est-à-dire le pilote et mécanicien, ou commercial, les hôtesses et les stewards, ont servi avec un enthousiasme et une passion absolument incroyable. Servir une machine, c'est incroyable pour des hommes.
Christian Tilati, vous êtes conservateur du musée de l'air du Bourget et nous sommes actuellement avec vous sous le Concorde. Donc c'est un aspect tout à fait étonnant parce qu'on aperçoit l'aile Delta qui est si belle. Et moi je trouve que lorsqu'on regarde cet avion, on a vraiment la sensation d'avoir devant soi un objet absolument unique. Vous-même, vous avez fait des études d'histoire de l'art, donc vous avez une vision peut-être un peu d'esthète.
J'ai eu une formation d'histoire de l'art et je travaille dans un musée technique, mais je crois qu'on ressent ça devant beaucoup d'avions. Et en fait, c'est ça qui est fascinant dans l'aviation, c'est que ce sont à la fois des objets techniques très, très performants, très pointus, et puis il y a cet aspect à la fois esthétique et cette espèce de folie. En fait, puisque quand on regarde les premiers avions, les premiers vols au début du siècle, c'est vrai qu'on imagine qu'il fallait quand même à la fois une très grande maîtrise de l'outil, mais aussi une espèce d'inconscience, une espèce de folie pour s'envoler, c'est-à-dire quitter sa condition humaine terrestre pour faire comme les oiseaux. Et en fait, devant le Concorde, il y a aussi ce sentiment à la fois de raison, de science, et puis de beauté et de folie devant cet appareil.
D'élégance. On peut dire évidemment que chaque avion ressemble un peu à un oiseau, mais celui-là particulièrement, ne serait-ce que par sa tête qui se ploie lorsque l'avion atterrit et décolle.
Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a une raison tout à fait pratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'atterrissage, les pilotes puissent voir devant la piste d'atterrissage. Donc, il y avait nécessité pour le vol supersonique d'avoir cette forme effilée. Et pour l'atterrissage, de pouvoir, pour des vols à plus faible vitesse, de pouvoir baisser le nez, tout simplement pour que les pilotes puissent apercevoir le bout de la piste. Mmh.
Sur le plan esthétique, on peut dire aussi que c'est un objet d'avant-garde lorsqu'on le regarde tel que le Concorde.
C'est un objet d'avant-garde qui a maintenant plus de 25 ans, puisque cet appareil que nous avons devant nous a plus de 25 ans. Donc, quand on regarde l'évolution des formes, l'évolution des arts, l'évolution des objets de notre vie quotidienne, il y a eu une évolution énorme. Et donc, effectivement, l'avion n'a pas vieilli. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit 25 ans après en fait que on ne sent pas, il n'est pas daté au niveau de la forme. Il a toujours cette modernité qui est assez étonnante.
Dès 1971, Concorde devient un avion de ligne qui doit partager le ciel des autres avions.
Concorde's first intercontinental flight was to Dakar in West Africa. "001 flew back to Le Bourget 2,500 miles in under 2.5 hours.
The present schedule is about 6.5 hours. Today's air transports and tomorrow's.
Au cours du Salon du Bourget de 1971, de très nombreuses personnalités ont été les passagers de Concorde au cours de plusieurs vols de démonstration. Tous les présidents des compagnies aériennes qui s'étaient intéressés à Concorde ont pu apprécier ses performances. Tous se déclarèrent surpris par le confort du vol.
Demain, intervention de M. Giscard d'Estaing, mais aujourd'hui, le ministre des Finances a pris un bon bol d'air à bord du Concorde qui effectuait un vol d'entraînement. M. Giscard d'Estaing a passé le mur du son. Et en descendant d'avion, M. le ministre des Finances était content.
Les impressions frappantes, c'est d'abord la très grande stabilité d'appareil et la très grande souplesse de ses manœuvres, que ce soit à des vitesses supersoniques, puisque en croisière, nous volions à peu près à 1500 km à l'heure, ou que ce soit à l'approche à l'atterrissage, qui se fait à des vitesses normales. L'atterrissage est assez curieux car il se fait assez cabré, comme vous le savez, et lorsqu'on est à l'intérieur de l'appareil, on ne voit absolument pas la piste, on a simplement le contact, le sentiment du contact des roues avec la piste. Rien n'est plus sympathique, je dois dire que l'atmosphère d'un vol d'essai, nous étions les quatre pilotes et mécaniciens et ingénieurs plus moi-même, et le calme, l'humour avec lequel tout ceci est fait, est, du point de vue humain, extrêmement sympathique, et j'étais heureux d'y participer.
Marie-Hélène Vanier, votre meilleur souvenir de Concorde ?
Oh, mon meilleur souvenir, c'est cette première boucle. On nous avait fait l'honneur de nous emmener sur une boucle bon, qui servait aussi de test d'appareil et d'endurance. Mais quand nous avons pris le chemin du retour, il a fallu faire un virage serré et total pour revenir vers l'Europe. Et le hasard a fait que moi, j'étais assise à la gauche de l'appareil et que c'est ce côté-là qui regardait la troposphère. Et bon, je n'étais jamais monté si haut, hein, 20 km au-dessus de la Terre. Je n'avais pas encore de vocation d'astronaute. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bon, quand on regarde le ciel, la nuit, il est noir. Enfin, noir. Bon, un noir léger, peut-être, mais noir. Mais là, c'était pas noir, c'était d'un bleu marine clair phénoménal, extraordinaire. C'était beau. Et j'avais l'impression de cet infini dont parlent d'ailleurs les astronautes quand ils sont à bord de leur capsule. Là. C'est sans fin. C'est merveilleux. Et puis alors, nous avons eu, sur le vol de retour, la chance de croiser l'avion de British Airways, le prototype British Airways, qui lui aussi faisait des vols d'entraînement. Et les deux vitesses conjuguées, ça a donné un trait de la traînée de condensation qui est passée à une rapidité extraordinaire. C'est un trait de crayon qui se posait sur le ciel, un trait de crayon. Et puis à la bord des côtes, la Bretagne, ça a été la carte de géographie. Le nord et le sud en même temps, ça, c'est pas donné à tout le monde.
Pour construire un avion, il ne faut pas que des ingénieurs et des pilotes d'essai. Et le génie créatif de la France, il faut le dire également, a toujours été très fière d'avoir été au premier rang pour l'aviation. D'abord dans le ciel, puisque les montgolfiers ont été les premiers précurseurs. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 1913, la France était détenteur de tous les records du monde, de vitesse, d'altitude, de rayon d'action. Donc c'était... Il est certain que dans l'âme des Français, l'aviation, et l'aviation française en particulier, laisse des traces qui sont très belles. Et de très belles pages, en tout cas. Et je pense que pour Concorde, ça a été un peu ça. Pour Caravelle, qui sur cet avion, il n'y avait qu'environ que 50% d'équipement qui était d'origine française. Sur Concorde, c'est 85%. Cela veut dire que tous ceux que nous n'avions pas vus avant, des ouvriers, des contremaîtres, de ceux que l'on appelle communément les sans-grades, c'est eux qui ont apporté par leur savoir-faire sur cette machine des relais qui pouvaient tenir des températures épouvantables. Le nez de l'avion est à 130 degrés. L'ensemble de ça a été conçu par des ingénieurs de grand talent. Cervantes était un ingénieur de très grand talent. La force du génie de l'Europe a commencé de se manifester, d'abord par la rigueur avec laquelle ce projet a été tenu, à la fois par les ingénieurs, les sous-traitants. Il y a 200 000 personnes qui ont travaillé sur ce projet. Vous savez ce que c'est que 200 000 personnes en France et en Angleterre, des sous-traitants? Il y a eu 250 entreprises en France qui ont travaillé pour Concorde, en dehors, bien sûr, de l'aérospatiale. C'est considérable, c'était une aventure d'hommes. Dans chaque domaine, on a étudié des choses nouvelles. Dans chaque domaine, on avait un avion qui n'était plus le même. Dans chaque domaine, la machine était différente. Il fallait de l'imagination pour concevoir des composants qui allaient tenir à 130 degrés, de pouvoir supporter que l'avion s'allonge. C'est un avion qui s'allonge de 25 cm en l'air. Il a fallu tenir compte de ça. Et tout ça, ça a été le résultat de ce travail. Et c'est pour ça que cet élan, cette force qui a été gagnée entre le début des travaux d'études de 1963 jusqu'au premier vol en 69 et puis à l'avion de ligne, a donné un tel boost à la construction aéronautique française que les Américains avaient véritablement raison de s'en inquiéter. Et lorsqu'en 1971, leur projet a été abandonné, ils se sont dit qu'ils devaient faire quelque chose. C'est pour ça que l'Amérique a été tout à fait intraitable et a mené la vie dure, non seulement aux industriels français, mais par la suite aux exploitants, puisque on a pu se poser à New York qu'après 18 mois de procès, de procédures difficiles et tout à fait injustes.
Le chemin de croix allait commencer pour Concorde avec des manifestations hostiles en Australie. Elles n'étaient que le prélude à une série de revers qui allaient mettre en péril le futur de ce projet. Les États-Unis et la Grande-Bretagne seront gagnés par la fièvre anti-supersonique qui sera plus bruyante que l'avion lui-même.
No sensible mother would feel happy about leaving her baby in the pram in the garden in the neighborhood Heathrow while these Concordes are passing.
Malgré l'opinion favorable du président Nixon, le Sénat rejette les crédits nécessaires à la poursuite du projet de transport supersonique, le Boeing 2727. Cette situation sera alors exploitée par les défenseurs de l'environnement qui obtiendront l'interdiction de survol en supersonique du territoire des États-Unis.
The SST is charged with doing everything but causing ingrown toenails, and I'll be surprised if the misinformers do not find a way to do that.
Le 31 janvier 1973, la Pan Am suivie par toutes les compagnies américaines couperont les ailes de Concorde en résiliant leur contrat. L'espoir nourri deux ans avant, lors de la rencontre Nixon-Pompidou aux Açores, allait s'évanouir dans l'Atlantique.
Je dois vous dire que lorsque le Boeing 2707, le projet américain de supersonique, a été abandonné, nous avons pleuré. Parce que nous nous doutions bien des difficultés qu'on pourrait impunément nous faire sur Concorde. Alors oui. Si nous avions eu cette concurrence, du moins, aurions-nous pu faire comme les problèmes sont les mêmes pour tous. Ils auraient trouvé les mêmes problèmes sur le bruit, sur la banque par exemple, oui. Et ça nous aurait beaucoup facilité.
L'histoire du Concorde, c'est une aventure industrielle, une aventure humaine aussi, à laquelle évidemment vous êtes associée, Marie-Hélène Vanier. Est-ce que vous avez souffert de l'échec commercial, on peut dire, de cet avion ? Est-ce que vous en avez été minée à l'intérieur des équipes ?
Eh bien, écoutez, miné, c'est peut-être un grand terme parce que, bon, nous ne sommes pas, nous, les responsables financiers de l'opération, mais il est certain que nous étions absolument courroucé, outré de voir à quel point nos amis américains s'opposaient à la venue de Concorde, évidemment par une espèce de jalousie bien compréhensible. Mais il y a une chose qui est amusante, c'est que j'aime beaucoup lire en anglais, et notamment des romans de politique fiction, choses comme ça, distrayantes. Et je me suis aperçue depuis un certain nombre d'années qu'il n'y a pas un des héros de ces livres qui n'emprunte le Concorde maintenant.
Thank you.
Vous vous souvenez particulièrement de la première fois où vous avez voyagé dans le Concorde, Jacques Martin ?
Ah oui, c'était la récompense d'une année de travail. Je m'y étais préparé, j'ai pas dû dormir la nuit d'avant, j'en suis certain. Et dans le taxi, je crois que je chantais. Et c'est vrai, j'adore tellement l'aviation que je vivrais bien dans un aéroport. Oh, il y a 18 ans. Il y a peut-être 15. Enfin, c'était magique. C'était magique, tout était nouveau, la forme des couverts, la forme des sièges. Et puis, cette idée fabuleuse d'aller deux fois plus vite que le son. Alors j'avais mes chronomètres, j'avais calculé qu'en mangeant les hors-d'œuvre, on avait fait 800 kilomètres, le plat principal, 1200 kilomètres, je n'en revenais pas. Et puis, j'y suis remonté bien souvent depuis, et la grande récompense a été lorsque j'ai connu personnellement un pilote d'Air France, un pilote de Concorde, qui m'a fait monter dans la cabine. Et j'ai fait le décollage. Et puis j'ai vécu, il a même fait une très belle pirouette sur New York, au retour à Paris. Enfin, j'aime cet avion, quoi, voilà. J'aime les autres aussi.
Oui.
Je les aime tous. Mais le Concorde, c'est la perfection. Et après, j'y très régulièrement, à la récompense de fin d'année, au lieu que ce soit un livre rouge, comme au collège, que ce soit un Jules Verne, disons que ma récompense de fin d'année, c'est en principe toujours la même destination.
Mais enfin, ce sont les Américains qui ont eu quand même, qui ont engagé la guerre et qui l'ont gagnée avec le Concorde.
Oui, ils nous ont assassiné le Concorde. Et à ce moment-là, je faisais le petit rapporteur, et suivi de Colaro, suivi de toute la troupe, nous avons été à l'aéroport de New York, munis d'une grosse caisse de cymbales, et nous avons interviewé tous les gens qui habitaient au bord de l'aéroport, puisque avec notre engin testé à Paris, nous faisions 115 décibels, et le Concorde n'en faisait plus que 110. Donc on a été demandé, excuse me sir, est-ce que je vous dérange? Yes. Et là-dessus, Colaro frappait avec sa cymbale, moi avec ma grosse caisse, et on a fait le tour de New York, et les gens, non, it is charming, it not deranging. Ben, ok, parfait. Et on leur a dit, vous voyez, vous êtes des vrais salauds, parce que notre bel oiseau fait moins de décibels que ma grosse caisse, donc vous pouvez le faire atterrir. Après, j'ai été voir l'organiste de la cathédrale de Paris, un grand organiste, et on lui a demandé aux orgues de Paris, faites-nous du 120 décibels. Et après, on le faisait entendre aux gens, on dit, ça vous dérange pas du tout, c'est très beau.
Personne n'a jamais songé, comme le fait remarquer Pierre Cochereau, à remettre en cause l'existence des orgues de Notre-Dame qui pourtant dépassent de 8 décibels le seuil fixé comme tolérable par les Américains. Pierre Cochereau.
Les récentes recherches acoustiques ont permis de constater que la tribune de Notre-Dame, c'est-à-dire de l'endroit où joue l'organiste qui donne un concert par exemple, dans la toute puissance de l'instrument, nous atteignons un total sonore de 114 décibels.
Oui, alors est-ce à dire que vous allez être obligé de boucher quelques tuyaux de votre orgue quand il y aura des Américains à Notre-Dame ?
Ça pourrait pas, oui, ça, et évidemment, si on veut être logique.
Expérience Concorde d'abord. Notre-Dame ensuite. Avec quand même une grosse différence, c'est qu'on n'a jamais vu les orgues atterrir à New York.
Et j'ai vraiment milité, et c'est vrai que c'est un coup épouvantable, ça a freiné complètement la production de cet avion, qui aurait pu desservir la côte est-ouest en 2 heures, alors qu'on en met 6, qui aurait pu desservir l'Amérique du Sud, mais il n'y a pas tellement de clients, je sais pas, peut-être, qui aurait pu desservir l'Amérique du Nord, ce qu'il fait aujourd'hui. Et vous remarquerez que cet avion était quand même fiable, puisqu'il y a 20 ans qu'il vole, et qui volera encore, d'après ce que je sais, jusqu'en 2020, hein, c'est ça ?
Oui.
Ah,
Il y a des hommes qui se sont véritablement battus pour ça. Et un homme comme Jean-Claude Decaux a acheté des pages entières de journaux aux États-Unis pour dire comment, alors que nous travaillons, la France a du génie, vous l'avez reconnu dans beaucoup. Il dit, moi je suis un jeune chef d'entreprise, je me bats tous les jours, et vous refusez à une machine qui a été construite dans notre pays d'aller à New York. C'est d'une injustice considérable. Il a joué cette carte à la fois au Washington Post, New York Herald, tous les journaux d'Atlantique, où les gens d'un seul coup ont découvert que l'avion n'était pas simplement une machine, il n'était pas simplement un avion, il avait derrière lui une foule de gens qui étaient enthousiastes parce que ça représentait une création tout à fait unique. C'est un avion qui a été défendu par les syndicats, pas uniquement pour un, très certainement pour le travail que ça donnait, mais aussi pour l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis de cet avion, de ce que ça représentait de qualité dans la production. En particulier, la CGT est le seul syndicat qui est véritablement manifesté. Ils ont investi le studio de Roger Giquel au cours d'un journal de 20 heures pour faire valoir l'importance du projet Concorde. Et un détail tout à fait curieux et amusant, chaque militant de la CGT a versé une certaine somme. Il recevait un petit reçu, un tel a donné tant d'argent pour Concorde, et en fait, cet argent servait à soutenir des opérations non pas de propagande, car en fait pour la CGT c'était plus pour faire connaître l'importance de ce projet, pour pouvoir déplacer les gens. Et dans ce comité de soutien, vous savez qu'ils ont loué un petit avion qui, au départ de New York, a traîné une banderole en disant « Laissez voler notre Concorde ». Je trouve ça beau, c'est très beau.
La délivrance du certificat de navigabilité le 10 octobre 1975 a été le point de départ du compte à rebours pour les compagnies aériennes. Tout allait être mis en place pour les passagers. La vérification des toboggans d'évacuation de secours, l'aménagement des offices et la décoration de la cabine, l'habillage des hublots et la pose de la moquette. La version retenue permet l'accueil de 100 passagers répartis en deux cabines avec un office à l'avant et à l'arrière. Les plans de cabine sont remis aux agences et dès le 15 octobre 1975, 3 mois avant le vol inaugural, Air France annonce que les premiers vols sont complets. Réunis à Cannes en novembre, l'Association internationale des transports aériens imposait la base du tarif Concorde, 20% en plus du billet première classe.
J'ai été très très contente d'être liée à une telle aventure. Parce que une de mes grandes obsessions dans mon travail, c'est que le travail ne date pas. Or, cet objet, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, parce qu'il est, magique, n'a pas pris un jour. Et c'est pas pour parler de moi, mais j'ai été très intimidée par un objet qui n'a pas pris un jour, puisque j'ai dû commencer à travailler quand il avait déjà 16 ans ou 17 ans d'existence, peut-être moi-même, et qu'il avait toujours pas pris un jour.
André Poutman, je pense que la beauté de l'avion, finalement, fait partie intégrante aussi de sa fonction.
Oui, c'est les vraies idées sur la modernité, ça. C'est qu'il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas étonné pour étonner. Tout a une vérité, tout a une explication. Et en effet, un objet qui a cette intelligence et cette modestie de se mettre au service de sa rareté, puisqu'il a une rareté extraordinaire, qui est donc sa rapidité. Et en effet, c'est marqué dans ses formes. Cette rapidité, on la comprend quand on le voit.
Alors donc, cet avion a été en service pendant un certain nombre d'années, et on a pensé à son aménagement intérieur, et il y a eu un concours d'architectes. Ce concours, vous l'avez gagné. Voilà. Vous étiez nombreux sur ce coup ?
Nous étions très peu nombreux. Je me souviens entre autres de Stark, qui était... la personne qui passait l'examen avant moi.
Qu'est-ce qui vous a fasciné, en fait, là-dedans, André Poutman?
Ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai eu une claire idée qui m'a réussi, mais qui était risquée. C'est qu'il fallait surtout pas en faire un objet de luxe. Surtout pas en faire un objet prétentieux, décoré, lourd, cossu. c'est un mot que j'aime pas trop, un objet qui dégage une énorme impression de luxe. J'ai pensé qu'il fallait faire exactement le contraire, qu'il fallait déculpabiliser tous ces hommes d'affaires qui le prennent et qui sont un peu inquiets de la formidable dépense qu'ils engagent, qu'il fallait déculpabiliser puisque c'est un outil de travail. Et ça a été mon thème dans le concept de tout ce qui fait qu'on est bien ou pas bien dans un lieu. Mon thème a été... On y travaille, peut-être même pendant le vol, on va travailler malgré le très très bon déjeuner qu'on vous sert. Et c'est un peu incompatible. Et il faut donc ne pas compter, comme dans tout ce que je fais, il y a une grande obsession de ne pas accrocher l'œil, de ne pas fatiguer l'œil, de ne pas commencer à le lasser, parce que tout a un début. Et au début, on peut être séduit par des choses très décoratives, mais j'ai pensé que c'était à éviter à tout prix. Je pense aussi que beaucoup plus de gens qu'on ose le dire ont peur de l'avion, et que moins on voit de choses marquantes, mieux on se porte.
C'est vrai que c'est une machine particulière. Pour les hôtesses et stewards, par exemple, qui traversent l'Atlantique à la marche et qui vont de Paris à New York chaque jour en marchant, c'est un avion qui est beau d'abord parce que il est étroit, il est cosy. Ils ont l'impression de recevoir comme dans un club ou dans leur salon. Et c'est vrai. C'est un avion qui est un pays où on est immédiatement très bien. C'est très curieux, son intérieur. Vous savez que le Concorde est un avion très étroit. Il fait moins de 3 mètres de large à l'intérieur. On peut rentrer l'intérieur de Concorde dans le moteur d'un 747. Pour vous dire que c'est vraiment très étroit. Donc, il y a à l'intérieur de cette cabine une sorte de convivialité particulière, de complicité avec la machine elle-même qui se comporte d'une façon tout à fait étonnante. Et je vous l'ai dit, pour les pilotes, on a immédiatement la sensation de vitesse. Mais pour le personnel commercial également, ils sont derrière et ils peuvent pratiquement connaître la vitesse de l'avion par le bruit qu'il fait. Il glisse, il siffle d'abord et donc c'est ça.
Nous vous demandons d'attacher votre ceinture et de ne pas fumer. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ladies and gentlemen, good morning. Captain Levasseur Hennig to welcome you on board this Air France Boeing 747 to Montreal and Toronto. Fasten your seatbelt and please refrain from smoking.
Martine Camusot, vous avez déjà eu peur sur Concorde ?
Mon premier vol, je vais vous dire franchement, le décollage du premier vol, car il y avait un bruit bizarre que je ne connaissais pas, une odeur différente. Et tout d'un coup, je me disais, mon Dieu, mais s'il se passait quelque chose. Et j'ai pensé qu'on m'avait posé la question, aimeriez-vous faire du Concorde ? Où j'avais répondu oui. Ça a tourné dans ma tête en quelques secondes. J'ai dit, oh, mon Dieu, et j'ai dit oui. Voilà ce que je... Et puis voilà, on a décollé, c'était merveilleux. Et après, les techniques, j'ai posé la question, j'ai dit, ça sent un peu bizarre. Ils m'ont dit, ça c'est tout à fait normal. Donc,
ça sentait quoi ?
Comme un peu le caramel.
Que vous aviez peur que ça crame quelque
voilà,
part.
Voilà, c'est ça. C'était ça que je pensais. Puis après, en effet, on s'habitue, il n'y a plus de problème. Parce que les avions ont une odeur, hein, je vous signale. Quand on rentre dans un avion, il y a une odeur bien spécifique. Et au décollage aussi, surtout quand on décolle à l'arrière, il y a une odeur... Donc là, c'était différent, voilà. J'avais fait plusieurs machines. Quand je suis rentrée en France, j'ai commencé par le Boeing 707. J'ai fait de l'Airbus 300, de l'Airbus ceci, cela, j'ai fait du 747. J'étais montée en passagère dans des avions moyen courrier, parce que moi je n'ai fait que du long courrier. J'étais montée dans des 727, dans des caravelles. Donc j'arrivais à connaître un peu les bruits.
Et là tout à coup
complètement différent. Mais je vous dis, on s'y fait tout de suite. Hein. On a tout de suite compris. Et les premiers équipages disaient aux autres qui allaient voler, qui n'avaient pas encore commencé, ça sent le caramel derrière, c'est normal.
Toute personne qui a touché cet avion de près ou de loin, que ce soit le navigant commercial, le navigant technique ou le personnel au sol qui était prévu pour faire toutes les réparations techniques et s'occuper de cet appareil, je crois que tous ceux qui ont touché de près ou de loin à cette machine, puisque nous l'appelons comme cela, sont passionnés. Vous ne pouvez pas ne pas être passionné quand vous avez touché, vu voler ou réparé ou arrangé ou avoir travaillé dans cet avion. La passion est vraiment le maître mot.
À partir du moment où vous avez travaillé sur Concorde, Nicole Méneveu, vous n'avez plus voulu quitter cet avion. Vous auriez eu la possibilité de grimper dans la hiérarchie à Air France, mais vous avez souhaité continuer à travailler sur Concorde jusqu'au bout. Pourquoi ?
Oh ben, j'ai continué mon histoire d'amour. C'est vrai, j'aurais pu, comme la plupart de nous, au bout d'un certain temps de navigant en tant qu'hôtesse, on devient chef de cabine pour ensuite devenir instructrice et ensuite chef hôtesse si on le désire. C'est vrai, je n'ai pas voulu passer chef de cabine pour rester sur cet avion. C'était ma passion. Je suis retraitée depuis 5 ans. C'est toujours ma passion et je ne regrette pas du tout d'avoir terminé ma carrière au bout de 30 ans en tant qu'hôtesse pour avoir passé 16 ans merveilleux sur cette machine. C'est pas du tout un regret. Si c'était à refaire, je le referais très certainement.
Il est midi lorsqu'une hôtesse annonce avec une pointe d'émotion: les passagers du vol Air France 085 pour Rio sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Dans un rugissement fantastique, les Olympus se déchaînent et les 83 tonnes de poussée font bondir Concorde dans une nouvelle dimension du temps. Ce mercredi 21 janvier 1976, à la même heure, le scénario est identique à Londres pour les 100 privilégiés à destination de Bahreïn qui vont vivre les premières heures de l'aventure la plus formidable du transport aérien, voler plus vite que le soleil.
Concorde, c'est pour bientôt. Premier vol commercial le 21 janvier, Paris-Rio et Londres-Bahreïn. Et à partir de demain, la réservation est ouverte. L'un des premiers candidats au voyage s'appelle Jacques Vidal. Il est en direct dans Intersoir ce soir, Jacques Vidal, aux côtés de Gérard Dupuis. Jacques Vidal, combien coûte un billet Paris-Rio de Janeiro par Concorde? On le sait maintenant?
Oui, aller-retour, 11 960 francs.
Et vous êtes candidat, vous maintenez cette candidature malgré le prix élevé?
Oui, parce que l'intérêt qu'elle représente pour nous est tout à fait évident en économie de fatigue et en durée de déplacement. Pour le type de travail que nous avons à faire là-bas, ça ne se discute pas.
Je peux vous demander quelle profession vous exercez?
Oui, bien sûr, je suis directeur commercial de l'édition artistique et de Cinéloc, qui sont deux sociétés d'impression, d'édition et de conseil en communication. Et rentrant d'un voyage d'études que j'ai fait il y a 5 semaines au Brésil avec le CPA de la Chambre de commerce de Paris, nous avons rencontré un groupe brésilien de Bahia qui souhaite nous éditer un ouvrage dont il nous a demandé d'assurer la conception et la réalisation.
Vous allez souvent au Brésil?
Eh bien, nous allons être conduits dès les premiers jours de janvier à y aller très souvent pour la réalisation de cet ouvrage.
Le billet, vous l'avez déjà en poche?
Et j'aimerais bien l'avoir. Je pensais l'avoir en ayant écrit pour confirmer notre réservation, mais ce qu'Air France appelle le booking ne commence que demain matin à 8h et il faut dès 8h reconfirmer pour être certain de pouvoir prendre le premier vol qui est le 26.
Vous allez vous lever plus tôt demain matin alors?
Presque dès l'aube, oui.
Quand vous avez pensé voler sur Concorde?
Eh bien, il y a très longtemps. J'ai considéré que quand en 67 on a annoncé le lancement de Concorde, qu'il serait plus facile d'aller à Rio en 7 heures que d'aller sur la Lune. Et c'était un rêve. Et puis, dans le cadre de notre activité à l'édition artistique, nous avons fait réaliser pour l'aérospatiale une brochure sur le Concorde. Et nous avons, bien avant que la presse en parle, assimilé ce que représentait le Concorde au point de vue des gains de temps et de fatigue pour les passagers. Et quand ce courant d'affaires s'est présenté possible pour nous, nous avons tout de suite su que c'était par Concorde qu'il fallait voyager.
Jacques Vidal, on vous souhaite bon voyage et on espère surtout que vous allez être retenu parmi les candidats parce qu'on sait déjà qu'il y en a beaucoup. Merci.
Merci.
À l'époque, j'étais pilote de ligne à Air France. Je volais sur un avion de sénateur, le 747, avec un cockpit immense. Et je voyais chaque jour à 11 heures cet avion absolument fantastique qui décollait et qui partait sur New York comme moi et qui avait le temps d'aller à New York et de revenir alors que moi, j'étais pas encore de l'autre côté. Et en fait, j'ai toujours eu la passion de, à la fois de cet avion et le rêve de pouvoir le piloter. En fait, j'ai eu la chance de le faire parce qu'il y a beaucoup de pilotes à Air France, il y a beaucoup qui arrivent à peu près au moment, donc il y a une certain nombre de conditions qui ont fait que un jour j'ai appris que j'allais faire le stage sur Concorde et ça a été une très 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 grande joie.
Quelle est la difficulté ?
Il n'y a pas que des difficultés avec Concorde, soyons justes, il y a quand même un plaisir, parce que c'est un avion qui est d'une facilité déconcertante au point de vue pilotage. Il a été tellement perfectionné, il est tellement intelligent, il sait tout faire. Vous êtes là, vous le surveillez, quelquefois je dis, j'adore le voir vivre, il monte, il réduit la vitesse, il sait véritablement tout faire. Mais la difficulté, je veux dire, les caractéristiques de cet avion, c'est un peu ses caprices. Il est capricieux, c'est un avion qui est entièrement électronique. Il a été le premier avion au monde avec des commandes de vol électriques à autorité totale. Et donc ça a été, c'était très nouveau. Et donc, il était quelquefois capricieux. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Concorde, il y a deux avions. Il y a un 747 et un Concorde. Et donc, le manuel d'utilisation, les bouquins, il y a 3 ou 4 volumes qu'il faut connaître, donc beaucoup de procédures. Chaque fois que Concorde se trouve dans le ciel des autres avions, c'est-à-dire très haut, très vite, la réglementation lui a imposé une phrase simple. Les responsables de l'administration à l'époque ont dit à quelque endroit que se trouve Concorde, il doit pouvoir rejoindre le ciel des autres d'une façon très simple. Et ça, ça a été la partie véritablement difficile qui a imposé des procédures qui devaient être simples parce que la charge de travail était souvent limite. C'est pour ça qu'il y a également 3 personnes à bord de cet avion-là, un pilote, un copilote et un mécanicien qui a beaucoup, beaucoup de travail, une charge importante. Donc en fait, Concorde, c'est à la fois un avion très facile et en même temps, un avion qui demande un apprentissage plus long que les autres. Le stage de formation dure environ 4 mois, le double des autres avions. Il demande également plus de mémoire, plus d'attachement, donc plus de travail que les autres. Et puis il a aussi, comme toutes les grandes réalisations industrielles, il y a la partie cachée. Et la partie cachée est la plus terrifiante. C'est un avion qui roule à 40 km à la minute. 40 km à la minute, ça veut dire sur des routes aériennes qui font 40 km de large, il faut véritablement s'en occuper. C'est un avion qui demande une attention, une rigueur continue. Et c'est ce qui fait également l'attachement que les pilotes ont pour cet avion-là, parce que maîtriser cette machine, c'est à la fois avoir la certitude que l'on a été bon, que ça s'est bien passé.
Que l'on fait partie des meilleurs aussi.
Des meilleurs, oui. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas le dire comme ça, mais c'est vrai ce que vous dites, dans le fond. Il y a une fierté pour l'homme qui a véritablement en main la machine et qui, à partir d'un certain moment, a dépassé le stade de l'apprentissage. Ses connaissances lui permettent d'aller plus loin, avec plus de souplesse. Et ça, je dois dire que, par moments, c'est vrai, j'étais très fier de piloter cet avion et d'avoir de la réussite.
Quand je faisais des vols officiels avec le président François Mitterrand, les gens étaient là, venaient attendre le président, mais venaient voir également le Concorde.
Jacqueline Blanc-Mabille, il aimait le Concorde.
Il appréciait surtout ses performances techniques. L'avion lui permettait de pouvoir effectuer des voyages transatlantiques en peu de temps. Nous sommes allés maintes fois à New York, à Washington, aller-retour dans la journée. On est même allé au sommet de la Terre en 92 à Rio, aller-retour dans la journée. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire avec un avion subsonique. Une fois, je me trouvais à Rome et j'attendais l'avion pour effectuer un voyage en Amérique du Sud. Donc j'avais le cœur qui battait parce que c'est vrai, voir poser ce Concorde, c'est magnifique. Et quand l'avion a atterri, tout l'aéroport de Rome s'est déplacé vers l'avion.
ça m'a beaucoup émue. J'ai toujours dans ma tête cette image de tous ces gens qui couraient vers le Concorde pour le voir de plus près. On a vraiment, je vous dis, l'impression que tout l'aéroport de Rome avait mis une parenthèse à son activité pour admirer le Concorde.
Les marchands de voyage, les voyagistes ont découvert avec cet avion une nouvelle, de nouvelles données, et puis en même temps une nouvelle source des gens qui n'avaient jamais été sollicités parce qu'il n'y avait jamais eu des croisières de ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est très beau. Je vais vous donner l'exemple de ce tour du monde, le premier que j'avais bien travaillé avec en préparation avec QNI. Et on est parti vers l'ouest, c'est-à-dire que tous les jours, les passagers arrivaient à la leur de départ, puisque on allait plus vite que le soleil. Ils décollaient tous les jours à midi, et ils arrivaient tous les jours à midi, et tous les jours, ils vivaient 27 heures au lieu de 24.
Nous vous demandons de rester jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil.
Est-ce que vous pensez que la passion qui est manifestée autour de cette machine est tellement grande parce que son avenir est tellement bref aussi, puisqu'il existe uniquement 16 modèles, Christian Tilati?
Oui, je crois qu'il y a une passion parce que c'est l'unique appareil de ce type-là. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est l'unique appareil de transport supersonique qui existe au monde. Donc, pour le moment, il n'a pas eu de suite. Il n'y a pas eu d'appareil identique construit à la même époque, et on en est toujours aux études et aux prévisions pour construire un nouveau supersonique de transport, mais actuellement c'est le seul. Donc ça explique certainement cette espèce de culte ou de passion que beaucoup de gens dans le monde de l'aéronautique lui vouent.
Succéder à Concorde est un défi de taille. Les projets futuristes russes présentés au Bourget cachent une réalité économique fondamentale. Les constructeurs européens et américains savent très bien que le successeur de Concorde nécessitera un effort international. Depuis 4 ans déjà, 8 des plus grands avionneurs du monde mènent des études pour un avion qui pourra couvrir des étapes de 10 000 km à Mach 2 avec 200 passagers. Enfin, le 7 avril 1993, les pairs de Concorde, Aérospatial et British Aerospace, associés avec Dutch Aerospace, ont créé le PERS, Programme Européen de Recherche Supersonique, financé par les trois pays. Cette alliance donnera son nom à l'avion qui volera en 2010.
Lieu de mémoire, Concorde, l'avion qui vole plus vite que le soleil, par Marie-Paul Vette. Avec Jacques Martin, Édouard Chemel, chef pilote de Concorde, André Poutman, architecte, Jacqueline Blanc, Martine Camusot, Nicole Méneveux, hôtesse, Christian Tilati, conservateur du musée du Bourget, et la collaboration des services de la communication d'Air France. Archive INA, Emmanuel Pige. Extrait de Concorde le rêve, vidéocassette réalisée par Édouard Chemel et André Turca. Prise de son et mixage, Patrick Marguerite, Philippe Leduc, Frédéric Charland, Monique Burguière. Réalisation, Marie-Ange Garando.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 novembre 1999.